Bonjour, bienvenue sur Section Rythmique. Aujourd'hui, pour changer un petit peu des percussions, nous allons parler de la contrebasse. Juan Sobidet, contrebassiste et également professeur de contrebasse, va nous parler de son instrument.
Les instruments de la famille des violons, en fait, c'est-à-dire le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, sont conçus tous à peu près selon le même principe mécanique, qui est que donc tu as une table ici devant sur laquelle pose un chevalet, c'est pas collé, hein, c'est juste posé et ça tient avec la, ça tient avec la tension des cordes. Et donc il y a une caisse et le fond. Et alors pour faire entrer en fait en résonance un peu plus. Et à l'intérieur, ici, tu as une barre qui s'appelle l'âme, qui donc est coincée entre la table et le fond. Ça sert à transmettre les vibrations du chevalet vers le fond. Et comme ce pied-là est coincé, ça fait une espèce de mouvement de balancier, tu vois, qu'on ne voit pas, évidemment, mais qui participe à l'amplification du son.
D'accord.
Ici, de ce côté-là, tu as aussi une barre qui s'appelle la barre d'harmonie qui sert à renforcer, je crois, à transmettre un peu les vibrations plus des graves. Hein, puisque ça, les cordes aiguës se trouvent de ce côté-là et les cordes graves de ce côté-là. Les différences par rapport à la basse ?
Ouais, les différences entre la contrebasse et la basse, à part la taille déjà.
Bah, par la taille, la longueur de... du manche est beaucoup plus long quand même sur une basse contrebasse que sur une basse. C'est-à-dire que pour passer d'une note à l'autre, en fait, tu vas faire un plus grand déplacement ici au niveau de la main gauche sur la touche. Donc ça, c'est déjà plus fatigant, ne serait-ce que pour ça.
Ouais.
C'est aussi plus fatigant parce que c'est plus dur. Là, c'est un truc qui rentre vachement en ligne de compte aussi, c'est que la contrebasse, physiquement, elle est beaucoup plus fatigante
que
la basse. Hein.
Il faut appuyer vraiment sur
un son. Oui, voilà, c'est un son acoustique au départ. Alors qu'une basse électrique, c'est beaucoup plus comme une guitare. En fait, les cordes sont assez près du manche.
Ouais.
Et puis, c'est amplifié. Donc, il suffit de faire ping comme ça et puis ça marche. Quoi.
Donc, l'ordre des cordes, c'est pareil, mi, la, ré, sol, comme sur
la
basse. Et c'est même octave.
Mais c'est plus difficile à jouer. Et en plus, il y a le problème de la justesse.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Comme sur une fretless.
Ouais. Une bonne partie du travail consiste à essayer de bien fixer les notes et tout ça, parce que c'est pas évident.
T'as des points de repère ou c'est juste à l'oreille et faire des heures?
Bah, t'as des repères, moteurs un peu, quoi. Tu sais qu'en mettant tant de distance dans le bras, tu vas tomber sur... Mais c'est jamais hyper précis, quoi. C'est... C'est surtout l'oreille, en fait. C'est le même instrument en gros, sinon que la basse c'est plutôt de la famille des guitares et la contrebasse c'est plus de la famille des violons au niveau de la lutherie. Mais sinon, les cordes disons en gros ce que tu peux faire avec au niveau des notes, c'est pareil. Et même maintenant, tu as des basses électriques qui sont 5 cordes ou 6 cordes, donc avec une corde plus aiguë, une corde plus grave, comme ça, donc qui ont plus de tessiture que.
Ça existe une contrebasse?
Il y a des 5 cordes, oui, traditionnellement à l'orchestre symphonique, avec une corde qui va à Do, je crois, une corde grave, pour pouvoir, en fait, doubler les violoncelles.
Les choix de jouer à l'archet ou au doigt? Quand est-ce que tu utilises l'archet?
Moi, j'essaye, contrairement à ce que je remarque chez beaucoup de mes confrères, dans le jazz notamment, ils n'utilisent pas l'archet. Alors, je pense que partie, c'est parce que c'est beaucoup plus difficile, en fait, la technique de l'archet.
Ouais.
Alors, moi, j'essaye de travailler l'archet dans l'improvisation. Pour le casse, mais même casse standard, tu vois, faire des chorus à l'archer tout simplement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus, c'est plus sympa que de faire simplement. Parce que là, c'est toujours le même timbre, alors que si tu fais. C'est toute seule, à limite au pit, on entend plein de choses, mais quand c'est au sein d'un groupe, des fois tu as du mal à passer, ouais. Parce qu'il y a juste pop 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 comme ça en fait. Alors ça va très bien quand tu fais la ligne de basse, mais moi j'aime bien le côté changer un peu
de couleur,
voilà.
Ouais. Ça te permet de aussi jouer plus sur les longueurs de notes.
Ah oui, bien sûr, oui, parce que tu peux faire.
Dans un orchestre symphonique.
Ouais. Oui. Il y en a même plusieurs en général. L'effectif dans un orchestre symphonique, je crois que c'est minimum 4 contrebasses, et puis des fois ça va être 8, ça dépend si c'est.
Mais qui sont les mêmes, elles sont la même. C'est le même instrument.
Ouais, c'est le même instrument, ouais. Mais tu sais, dans la musique classique, c'est l'orchestre symphonique. C'est des pupitres en fait.
Oui.
C'est-à-dire tu as 12 premiers violons, 12 seconds violons, tu as les altos, les violoncelles. Puis très souvent, le compositeur, il écrit pour le pupitre. Mm-hmm. Hein. C'est pas chaque instrument, c'est pas vraiment. Ouais. Des fois, il divise le pupitre en deux. Sinon, chaque pupitre va jouer. Enfin, au sein d'un pupitre, ils jouent tous la même chose. Donc la contrebasse, c'est pareil. On n'utilise pas tellement la contrebasse dans la musique de chant, par contre, malheureusement. C'est
plutôt le violoncelle.
Voilà, c'est plutôt le violoncelle. C'est un des phénomènes des instruments de musique, c'est que à partir d'un son. Tu as des harmoniques, tu sais, qui peuvent se développer au-dessus, mais qu'on n'entend pas forcément dans le son fondamental. Et donc, en faisant ça, on fait sortir des harmoniques différentes, tu vois. Parce que selon l'endroit où tu divises la corde, tu as une harmonique qui va changer par rapport à une autre. Quand je fais partie d'un ensemble comme ça où il y a contrebasse et batterie plus d'autres instruments, mon premier souci en général c'est d'essayer d'être avec la batterie. Donc c'est là que se pose le problème des fois qu'il y a des gens qui ont tendance à interpréter le tempo de façon plus assise que d'autres qui sont plus nerveux en fait. Moi c'est comme ça que je le vois.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, tu sens qu'ils ont besoin d'être, ils ont envie que ce soit quelque chose de très posé. À la limite, des fois trop même.
En arrière,
voilà. Et puis il y a d'autres pour qui la musique c'est une espèce d'excitation, et donc très souvent ça se traduit par quelque chose qui est très devant en fait. Ouais. Donc, alors comment je fais pour être avec le batteur? Moi, mon truc, c'est quand je fais du jazz en tout cas, c'est d'écouter la ride et puis de me caler sur la ride. Quoi.
Ouais.
Plus que sur la charlée. Moi, c'est essayer vraiment que la contrebasse fait boum, boum, boum en même temps que tching, 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 tching,
tching.
C'est le truc là qui est commençant pour moi. Et je pense que chez le batteur de jazz en tout cas, pour lui, son tempo, c'est la ride. Et donc, bah, c'est ce que j'essaye de faire quand je joue, c'est de maintenir ce truc, ce mouvement, sans que ce soit haché. Tu vois, je pourrais illustrer ça comme ça. Si je fais un truc qui est assez régulier, ça va être. Si c'était haché, tu vois, ce serait plus. Ouais, je pourrais faire quelque chose de beaucoup moins régulier, en fait. Mais c'est difficile de faire ça et puis quand même avoir un groove qui soit bien régulier. Parce que, alors là, on joint un autre aspect du rôle de la contrebasse, ou de la basse d'ailleurs en général. C'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est au croisement du rythme et de l'harmonie en fait. Bon, un peu de la même façon que le piano ou la guitare, mais la contrebasse avec ses spécificités que tu colles vraiment à la batterie, et puis en même temps tu fournis quand même les
C'est
bases.
le lien entre le rythme et la mélodie, ouais.
Ouais, enfin, moi, pour moi c'est plus l'harmonie, si tu veux. Bon, c'est vrai que la mélodie elle est là, mais ce que je veux dire c'est que en fait depuis le bebop et tout ça, dans les orchestres de jazz, le pianiste, il joue plus la fondamentale de l'accord, et c'est la contrebasse qui joue la fondamentale, et le pianiste, il met le reste de l'accord, en fait. Et donc, c'est ça le lien entre le rythme et puis l'harmonie, quoi. La contrebasse, elle est au centre de ça, et c'est vachement intéressant, quoi.
En pratique, ça se traduit comment?
Comment ça se traduit?
Est-ce que déjà justement avec ce que tu dis, donc tu places la fondamentale, est-ce que tu es quand même obligé de placer la fondamentale ou est-ce que les bassistes aussi
Ah ben on avait.
se sont rebellés et ont dit stop
Oui.
à la fondamentale aussi parce que
Ben voilà,
le
après
moment on dit ça va bien.
ça dépend des esthétiques en fait.
Oui.
Si tu es, disons, en gros, si tu es traditionnaliste, tu vas jouer beaucoup de fondamentales. Et si tu es moderniste, tu vas jouer peu de fondamentales. Et là aussi, ça va se traduire sur le rythme. Si tu es traditionniliste, tu joues quelque chose de très carré. Si tu es plus moderniste,
Fondamental à la genre.
voilà, donc en gros, c'est ça. Moi, je sais que comme il m'arrive de jouer avec des gens d'esthétique différentes, tu as des gens, tu sens tout de suite qu'ils veulent quelque chose de relativement traditionnel. Ben, j'essaie de jouer, je vais jouer une ligne de basse avec beaucoup de notes simples, soit la fondamentale ou les quintes, tu vois, des trucs comme ça. Par exemple, tu verras que dans la musique New Orleans, par exemple, c'est très souvent fondamentale quinte comme ça, tu vois. Donc, c'est clair, là, on ne cherche pas à faire des notes.
La 9e, ça marcherait pas.
Voilà, c'est ça. Alors que par contre, si c'est un style plus, je sais pas, plus moderne, il y a beaucoup plus de notes en dehors de. Qui sont pas les notes fondamentales de l'accord, quoi. Et avec des rythmes plus particuliers, je sais pas. Thank you. entend, je pense, une forme d'accord. Mais c'est pas aussi carré que si je jouais, par exemple. Je pourrais faire plus simple que ça. Donc, ça, c'est un aspect du métier, quoi, du contrebassiste, c'est-à-dire de savoir adapter son langage aux gens avec lesquels tu joues, aussi bien harmoniquement que rythmiquement, mélodiquement, et tout ça, quoi.
Et à la basse, dans des styles plus funk ou même rock pop ou quoi, on retrouve souvent des riffs, un peu comme en guitare, des lignes de basse qui sont construites sur une ou deux mesures et qui tombent en boucle. Est-ce qu'il y a ça à la contrebasse aussi, ou est-ce qu'elle est restée plus développée sur le rock and bass?
Disons que, d'une manière générale, dans le jazz, le riff est beaucoup moins présent que dans le rock, le blues et tout ça. Donc, du coup, les lignes de basse, c'est pareil, il y a quand même beaucoup moins de riff. Bah, dans le jazz, il y a donc ce fameux Paul Chambers, donc, qui était le contrebassiste attitré du premier quintet de Miles Davis dans les années 57, puis, donc, où il y avait Coltrane, Philly Joe Jones, etc. Et lui, il est resté chez Miles Davis jusque dans les années 60, je sais pas, 65, par là. Après, Miles Davis s'est un peu arrêté, et puis c'est là qu'il a reformé un autre quintet avec Herbie Hancock, Tony Williams, et puis Ron Carter à contrebasse. Il y avait Wayne Shorter aussi, le saxophoniste. Donc, ça, Paul Chambers et Ron Carter, c'est deux grands contrebassistes de jazz. Après, il y a aussi Ray Brown. Je sais pas si tu connais Ray Brown, qui a joué avec Oscar Peterson beaucoup. Dans les mecs plus modernes, il y a chez Bill Evans, il y a eu pas mal de contrebassistes. Balèze, quoi, comme il y a eu Scott LaFaro, mais il est mort jeune en 61. Et puis après, tu as Eddie Gomez, que tu connais peut-être, Eddie Gomez, ouais. Mark Johnson, il y a aussi. Évidemment, dans les gens connus, il y a Mingus.
Ouais.
Mingus. Je ne suis jamais vraiment intéressé à son jeu en lui-même. Lui, c'est plus un personnage et puis un compositeur, quoi. Compositeur-arrangeur.
Oui. Lui, il a quand même exploré pas mal de sonorités,
d'instruments. Oui, parce que sa musique, c'est limite free jazz, en fait. Très expérimental, très expressif, en fait, quoi. Ouais. Avec des gens comme Eric Dolphy, des gens... Voilà, tout ça. Donc, c'est vachement intéressant de ce point de vue-là, mais... Alors maintenant, il y en a un qui est très connu maintenant, c'est Gary Peacock qui joue avec Keith Jarrett.
Ouais. Bon, après, des questions d'ordre pratique. comment tu déplaces une contrebasse
Avec beaucoup de réticence. Déplacer une contrebasse, c'est en général. Moi, de toute façon, comme. Quand je fais du jazz, il faut que j'emmène un ampli aussi. Et puis, si ce n'est pas d'autre chose, je prends la voiture.
Prends Zélibre.
Ouais, c'est ça.
Et le prix moyen d'une contrebasse?
Alors.
J'imagine que ça peut monter très haut, comme tous les instruments.
Peut monter très haut. Heureusement, depuis. 5-6 ans, il y a beaucoup plus d'instruments chinois, car ça c'est un instrument sans ligne, et qui, donc ils ont amené une baisse quand même des prix qui permet d'avoir des instruments qui ne sont pas super top et tout, mais par rapport à ce que tu avais avant, tu peux avoir mieux pour le même prix, quoi.
Ouais.
Donc celle-ci, j'ai payé 3 000 et quelques euros.
D'accord.
quand même. Et tu peux en avoir. Disons que les modèles de base, ça va être à 2000. Et là, j'ai l'impression que ça commence à descendre encore un peu en dessous, mais.
C'est 10 fois le prix d'une base, quoi.
Ah oui, c'est beaucoup plus cher qu'une base.
En qualité équivalente.
Ouais. Mais c'est pas le même travail, non plus.
Ah bah, bien sûr. Ça se loue, non? Comme les pianos ou...
Ça se loue, mais c'est un peu galère, en fait. Il n'y a pas tellement de gens qui les louent et ils les louent pendant une durée donnée. Et puis en général, ils disent bon, après, soit vous achetez, soit vous nous la rendez.
Qui sort, tu l'amplifies?
Oui. Mmh. Oui, directement jack vers un ampli.
T'as un micro qui, quoi, qui est dedans
C'est la cellule, elle est là en fait. Elle capte à partir du chevalet.
D'accord.
Il y a plein, depuis qu'ils essayent d'amplifier les contrebasses, il y a eu plein de systèmes, tous à peu près sur le chevalet d'une manière ou d'une autre. Parce que dès que tu mets par exemple un micro, tu as des sons, t'as des problèmes de larcène.
Voilà, c'était Juan Sobide. Juan possède plusieurs pages web, un site, un blog, un MySpace. Vous trouverez tous ces liens à la rubrique podcast du site Section Rythmique, www.sectionrythmique.com. Merci Juan, à très bientôt sur Section Rythmique.